le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant. Ce matin, nous allons parler de richesse. D'un côté, la fausse richesse, celle de la société, celle qui nous dit qu'il en faut toujours plus, qu'il faut tout garder pour soi. D'un autre côté, la vraie richesse, celle qui réchauffe vraiment le cœur, celle dont Jésus parle dans les évangiles, celle qui se donne sans compter au nom de l'amour. Vous êtes les bienvenus ce matin, tel que vous êtes, au nom de cet amour. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Martin Kopp. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes théologien protestant spécialisé en écologie et président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France.
Absolument.
Qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir sur ce sujet de la justice climatique, de l'écologie?
Alors, il y a eu deux moments dans cette prise de conscience. Un premier moment presque corporel, physique, et un deuxième moment plus intellectuel. Le premier, c'était pendant un tour du monde que j'ai fait entre mon master et mon doctorat, où je suis tombé gravement malade en Inde à cause de la pollution atmosphérique et où je suis passé à deux doigts de la septicémie. Donc là, on se rend compte que on passe 15 jours à New Delhi, c'est comme on fume deux paquets de cigarettes par jour alors qu'on ne fait que respirer l'air extérieur. Et on se rend compte du coup qu'effectivement, ça a un impact direct sur nos corps. C'est pas simplement une question de chiffres dans des statistiques. Et j'ai pris conscience que la question écologique, c'était pas une question de bobo, c'était une question de vie et de mort pour beaucoup de gens déjà aujourd'hui. Et ça l'a été pour moi. Et quand je suis rentré de ce voyage, il y a eu le temps intellectuel de reprise, de lecture, de prise de conscience des chiffres et de là où nous en sommes, et la volonté de s'engager.
Et en quoi la foi chrétienne, en quoi peut-être une lecture de la Bible, vous trouvez ça inspirant sur ces sujets?
Alors la Bible ne parle pas d'écologie en tant que telle, puisque le mot est très récent, il date du 19e siècle, mais il parle de l'idée de création. La confession que s'il y a quelque chose plutôt que rien, comme disait Leibniz, s'il y a des atomes, de la matière, de l'énergie, des arbres, des rivières, etc., c'est parce que dans un premier acte d'amour, Dieu a créé le monde. Il a créé des objets, des êtres avec lesquels être en relation. Et il est évident, c'est presque trop simple de le dire ainsi, mais que répondre au beau don de la création en la détruisant, en la déréglant et en faisant en sorte que les générations futures ne puissent pas vivre comme nous, c'est une piètre réponse à cet amour.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences que l'urgence écologique quand on voit les drames humains, les souffrances très aiguës? Est-ce que ce n'est pas le sujet un peu moins important?
Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que toutes les urgences sont liées. Opposer l'urgence climatique et l'urgence sociale, c'est ne pas avoir compris que, selon la Banque mondiale, à une trajectoire de 2 degrés Celsius, d'ici 2030, ce sont 100 millions de personnes qui retomberont dans l'extrême pauvreté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre la pauvreté sans lutter contre le changement climatique. On pourrait prendre plein d'autres exemples. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes en France et puis un certain nombre de militants écologistes ont bien compris cela lorsqu'ils disent « fin du monde, fin du mois », ce sont les mêmes combats. Donc on a aujourd'hui une compréhension intégrale des enjeux et une action aussi qui travaille sur l'ensemble.
Merci Martin Kopp pour ce petit entretien en introduction. Je vous laisse maintenant nous conduire dans un temps de réflexion et de méditation sur ce thème du jour, sur la richesse, sur l'enrichissement, sur la croissance.
On vient de mentionner les Gilets jaunes et donc de se positionner dans le champ politique. Et je commencerai donc par nommer et citer un acteur politique de notre pays. Avec les dents. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidence de la République, promettait d'aller chercher la croissance. Ça va mieux. C'est ainsi que François Hollande, alors en fin de mandat présidentiel, jugeait une France ayant plus de croissance. Vous le savez, les deux formules sont célèbres. Elles désignent un terrain partagé par ces deux hommes, celui de la quête primordiale de la croissance économique. Politique de droite, politique de gauche, politique aujourd'hui du « en même temps », politique en vue de la croissance. Nous vivons en fait au cœur d'une société de croissance. Nous vivons en elle et par elle, comme si elle était notre milieu écologique, écrivait André Amar. La croissance vous manque et tout est dépeuplé, pourrait-on dire. Et cette croissance concerne avant tout, sinon exclusivement, le terrain de la richesse, qu'elle soit personnelle ou nationale. Notre vision de la vie pose en standard qu'à mesure qu'on gagne en ancienneté, en expérience, en statut hiérarchique. Nos revenus, notre capital et notre patrimoine croissent. C'est normal, c'est dû, vivre, c'est accumulé. Face à cette vision occidentale et moderne, quelle peut être une vision chrétienne des biens ? Et quel regard porter sur l'enrichissement devant Dieu ? Telles sont les deux questions que je souhaite poser ce matin. Et il me paraît important de commencer par rappeler deux points théologiques majeurs. Le premier souligne qu'il n'y a pas, aux yeux de la foi chrétienne, de rejet des biens en tant que tels. Au contraire, la confession du Dieu créateur, la croyance en l'incarnation de Dieu en Jésus et l'espérance de la nouvelle création de toutes choses confèrent dignité et valeur à la matière. C'est pourquoi en 1977, le théologien canadien Ronald Sider dit justement, je cite, « que la foi biblique ne connaît pas la notion ascétique selon laquelle abandonner la nourriture, les possessions ou le sexe est intrinsèquement vertueux. » Fin de citation. Ce sont de bons et beaux dons de Dieu. La seconde chose à rappeler est que Dieu se soucie de ce que ses créatures aient les biens nécessaires pour vivre dignement. Le manque et la misère sont à combattre. Cette volonté divine est évidente d'un bout à l'autre de la Bible. Par exemple, à la fin de l'Évangile selon Matthieu, parmi les actions qui justifient lors du jugement dernier, on lit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » Matthieu 25, 35. Les chrétiens ne sont pas appelés à fuir le monde et leur corps, mais à les habiter selon un usage légitime et à ressentir de la gratitude. Et cela plaît à Dieu. En rappelant cela, j'entends éviter tout malentendu fâcheux, parce qu'il est vrai, il faut le reconnaître, que le christianisme n'a pas toujours porté ce discours à travers l'histoire. Je ferai même un pas de plus, car le christianisme va au-delà de la nécessité et valorise un rapport de plaisir au bien que la nature et la vie nous offrent, c'est-à-dire un hédonisme, c'est un mot qui vient du grec « hédoné » qui signifie « plaisir ». En l'occurrence, l'hédonisme chrétien se décline dans le régal, la savouration et la fête. Commençons par le régal si vous voulez bien, il y a pire pour commencer. Le théologien américain John Schneider souligne que, selon Genèse 2, Dieu avait mis l'humain dans le jardin d'Éden, ce qui en hébreu signifie littéralement le jardin des délices. Dans ce jardin mythique, chaque arbre était d'aspect attrayant et bon à manger, dit le texte. Schneider écrit en 2002, je cite, « que la première vision de l'existence humaine matérielle que décrit la Bible n'est pas un récit où l'on s'en sort simplement, par un régime de pain quotidien, ou un conseil d'en prendre juste assez. » Fin de citation. C'est un récit d'abondance et de régal. Les protestants ont souvent l'image d'une certaine austérité, d'une certaine sécheresse des papilles, si l'on peut dire, qui leur colle à la peau. C'est avoir mal lu Jean Calvin, un des réformateurs à l'origine du protestantisme, qui déjà au XVIe siècle refusait une limitation des biens personnels au strict nécessaire. Ce qui, selon lui, était une philosophie inhumaine. Car elle réduit l'être humain, je cite, à un tronc de bois. Plutôt, Calvin écrit, il n'est en aucun cas défendu ou de rire, ou de se saouler, ou d'acquérir de nouvelles possessions, ou de se délecter avec des instruments de musique, ou de boire du vin. Fin de citation. Se régaler rime donc avec savourer. Avoir le temps de goûter. Prendre pleine conscience de la succulence. N'est-ce pas là une expérience de Dieu lui-même ? Dans le psaume 34, au verset 9, on lit « Voyez et goûtez combien Adonai est bon ». Le théologien américain contemporain Lloyd Shannon Young écrit « Parfois nous pensons que ces impératifs, voyez, goûtez, sont simplement figuratifs. Qu'est-ce que cela signifierait si nous les prenions un peu plus littéralement ? Pouvons-nous effectivement goûter la bonté de Dieu dans la nourriture que nous mangeons ? Je le pense. » Fin de citation. Un temps privilégié pour cette expérience est celui de la fête. Pour les chrétiens, ce temps de réjouissance dans l'abondance est important. Le premier signe de Jésus, dans l'évangile selon Jean, fut de fournir 6 jarres supplémentaires de vin de la meilleure des qualités à la noce de Cana, alors que tout avait déjà été bu. Au cours de son ministère, il a fréquenté les tables de tous, et souvent celles des riches d'ailleurs, au point qu'on a essayé de lui nuire en le taxant de glouton et d'ivrogne. Jésus menait une vie simple, mais il n'était pas un renonçant et il savait festoyer. En résumé, il existe aux yeux de la foi chrétienne une appréciation juste et joyeuse des biens qui honore la matière et nos corps. Elle loue Dieu comme le créateur du monde, elle appelle la gratitude. En d'autres termes, il existe un hédonisme digne. Cette valorisation d'un certain avoir se prolonge-t-elle mécaniquement dans la légitimité d'avoir plus pour s'enrichir et même toujours plus ? Trouve ici un lieu de discordance entre les deux grandes parties de la Bible. Dans la Bible hébraïque, l'enrichissement est en général valorisé, depuis la croissance de l'opulence des patriarches jusqu'à l'enrichissement d'Israël en Canaan, en passant par celle d'individus au sein du peuple. Entre autres passages, voici la manière imagée dont celui d'Israël est décrit. « Tu t'es engraissé, tu as grossi, tu t'es épaissi. » Deutéronome 32, 15. Ces enrichissements positifs sont souvent vus comme le fruit de la bénédiction de Dieu. L'enrichissement malhonnête, ou qui est source d'injustice, est cependant condamné avec fermeté. Il n'y a qu'à lire les prophètes. Et les traditions de sagesse avancent, de façon originale au sein de la Torah, que toute quête de richesse est vaine, par exemple dans l'Ecclésiaste. Dans le Nouveau Testament, par contre, l'enrichissement et la volonté d'accroître son bien sont systématiquement condamnés. Dans la parabole du semeur, la séduction des richesses est identifiée aux épines qui étouffent la parole et l'empêchent de porter du fruit. La cupidité est mise par Jésus au rang des maux qui sortent du cœur de l'humain et le rendent impur. L'apôtre Paul interdit toute relation avec le cupide, cet idolâtre, qui sera, selon lui, privé de l'héritage du royaume. La première épître à Timothée dira carrément que les personnes qui veulent s'enrichir sont prises au piège, je cite, de multiples désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, 9. Or pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ, image du Dieu invisible, parole de Dieu incarné, qui a le dernier mot. Est-ce là pour autant le fin mot de l'histoire ? L'enjeu est plus complexe, parce qu'on constate que 6 textes dans le Nouveau Testament incluent un commandement d'enrichissement destiné à une personne ou à une église. Y aurait-il donc une contradiction au sein même du Nouveau Testament ? Je ne le crois pas, parce que si ces textes utilisent le langage de l'enrichissement, à chaque fois, et à chaque fois d'une autre façon, l'enrichissement est subverti. Regardons ça ensemble en détail. Les commandements et textes en question sont les suivants. « Amassez-vous des trésors au ciel » Matthieu 6, 19 à 21. « Enrichissez-vous auprès de Dieu » Luc 12, 16 à 20. Que les riches s'enrichissent de belles œuvres pour l'avenir. 1 Timothée 6, 17 à 19. Achète de l'or purifié au feu pour t'enrichir. Apocalypse 3, 14 à 21. Enfin, la parabole des talents en Matthieu 25 et son parallèle, la parabole des mines en Luc 19. Il est malheureusement impossible de lire tous ces textes ce matin. Bien sûr. Je vais donc me concentrer sur ceux qui parlent à toute personne, quelle que soit sa condition. Le commandement d'amasser des trésors au ciel et la parabole des talents. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, versets 19 à 21, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus commence par interdire à ses auditeurs d'amasser des trésors. Trésor en grec, c'est thésauros, c'est-à-dire ce qu'on thésaurise, ce qu'on met de côté, ce qu'on accumule. Il n'est donc pas question ici, encore une fois, des biens nécessaires pour vivre, mais des surplus. Il ne faut pas, à l'inverse, minorer l'interdit. Aucune accumulation ne nous est permise. En 1954, au début de ce qu'on appellera plus tard les Trente Glorieuses, le théologien protestant Jacques Ellul écrit que cela signifie le rejet de toute épargne qui ne soit faite, je cite, « dans un objectif précis, faire un cadeau, acheter une maison pour se loger, etc. » Fin de citation. Remarquez que l'interdit du Christ ne traite pas de ce qui arrive dans nos mains, par l'hérédité, par le travail ou par une fortune du sort, un arrivage qui peut être conséquent et même croissant dans le temps, L'interdit traite de ce que nous pourrions garder et amonceler en nos mains une fois possédés. Élul jugea, je cite, que l'argent doit satisfaire à nos besoins et que tout le reste, intégralement, doit être donné. Fin de citation. La pointe de l'interdit est de ne pas accumuler les trésors sur la terre. Face à notre société de croissance, peut-on imaginer une parole plus contradictoire ? En revanche, Jésus prescrit d'amasser des trésors au ciel. L'enjeu est celui du lieu de l'accumulation. Dans la Bible, le ciel comprend presque toujours conjointement une dimension spatiale, le ciel comme lieu, et une dimension théologique, le ciel comme espace de la présence de Dieu. Lorsque Jésus commande d'accumuler des trésors au ciel, il dit donc « accumuler des trésors auprès de Dieu ». Cette idée provient du judaïsme antique. Là, ce sont les bonnes œuvres du juste, en particulier les aumônes, qui sont vues comme des trésors amassés au ciel. Ainsi lit-on dans le livre deutérocanonique de Tobie 4, 9 à 10 « Si tu as peu, ne crains pas de faire l'aumône selon le peu que tu as. C'est un beau trésor que tu te constitues pour le jour de la détresse, parce que l'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. » On lit encore en 4 Esdras 7, 77 qui localise le trésor « En effet, tu possèdes un trésor d'œuvre mis en réserve auprès du Très-Haut, mais il ne te sera pas montré avant les derniers temps. » Fin de citation. Ce n'est donc certainement pas un hasard si en Matthieu, le commandement d'accumuler des trésors au ciel suit immédiatement les paroles de Jésus sur l'aumône, la prière et le jeûne. Même si notre texte ne le précise pas, on comprend que ce sont les œuvres bonnes sur la terre, dont la piété véritable, qui relèvent de la relation avec Dieu et des relations avec les autres, envers qui nous faisons preuve de bonté. La nature des biens amassés au ciel n'est pas mentionnée. On peut s'interroger, bon, de quoi est-ce qu'il en va là ? On peut cependant repérer, plus loin dans l'Évangile, qu'il sera question de la vie éternelle, de l'entrée dans la joie du Maître et du royaume préparé depuis la fondation du monde. On peut aussi relier cette idée de trésor au langage de la récompense et garder, finalement, une part de mystère. Jésus termine son propos en disant « Où est ton trésor ? Là aussi sera ton cœur. » Ces dernières paroles sont une surprise. On aurait pu croire qu'avec les mythes, les vers et les voleurs, la justification de l'enseignement avait été donnée. Or voici qu'une raison supplémentaire est invoquée. Tandis qu'il enseignait un « vous », Jésus parle maintenant au « tu ». L'effet est de personnaliser l'enseignement, de le diriger au plus intime de chacun. Et d'une partie de la phrase à l'autre, le temps du verbe « être » change. Réécoutez, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cela opère un déplacement fondamental. En définitive, ce qui compte, ce n'est pas tant le lieu du trésor, sur terre ou au ciel, que là où se situe en dernier lieu le cœur de chacun. Or, dans la Bible, le cœur est compris comme le centre de la vie intérieure de l'humain et la source ou le siège de toutes les forces et fonctions de l'âme et de l'esprit. Il en va donc du plus intime d'une personne, au point de parfois désigner sa vérité même. Quand les humains regardent à ce que voient les yeux, Dieu voit le cœur, lit-on en 1 Samuel 16, 7. Finalement, le Christ commande à chacune et chacun deux croissances liées. La croissance de mes trésors célestes, par la croissance de ma piété et de mes actes d'amour. Je suis renvoyé à mon centre intime, à ce vers quoi je tends en profondeur et à la mobilisation de mes forces dans cette direction. Le moment est venu de me confronter à la parabole des talents. Je précise tout de suite qu'un talent, en grec talenton, désigne en fait une somme d'argent. C'est même une somme gigantesque, l'équivalent de 16 années de salaire pour un ouvrier journalier de l'époque de Jésus. La parabole raconte l'histoire de trois serviteurs. Avant de partir en voyage, leur maître leur confie de l'argent. Il le fait en fonction de leur capacité. Le premier reçoit 5 talents, le deuxième 2 talents et le dernier un seul talent. Pendant qu'il est parti en voyage, le serviteur qui en avait reçu 5 en gagne 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 en gagne 2 autres. Mais celui qui en avait reçu un seul cache son talent sous terre. Lorsqu'il rentre, le maître règle ses comptes. Il se réjouit du profit fait par les 2 premiers serviteurs, qui ont été bons et fidèles, et les récompense. Le dernier serviteur, par contre, explique avoir eu peur de son maître, qu'il savait être un homme dur, qui récolte un profit qu'il n'a pas lui-même généré. Il a donc préféré cacher le talent pour pouvoir lui rendre, au moins, il ne l'a pas perdu. Le maître se fâche, le qualifie de serviteur mauvais, timoré, et il lui dit qu'il aurait dû mettre ce talent à la banque, ce qui lui aurait permis, au moins, de toucher les intérêts. Le serviteur est renvoyé. C'est ainsi qu'on peut résumer la parabole des talents que vous pouvez retourner lire en Matthieu 25, versets 14 à 30. Cette parabole est-elle en contradiction avec le commandement d'accumuler des trésors au ciel et non sur la terre? Encourage-t-elle l'entrepreneuriat, le profit et une croissance économique? Il faut d'abord prendre en compte le contexte de cette parabole. Elle est racontée par Jésus au sein d'un discours sur la fin des temps qui répond à la question des disciples de savoir quel est le signe qui annoncera son retour. Or Jésus, on le voit, ne répond pas à cette question. Il déplace l'enjeu. La parabole ne s'intéresse pas au timing du retour du Christ, mais à l'attitude juste du disciple qui est dans l'attente de ce retour. La pointe théologique du texte est une mise en garde en vue d'une attitude de veille active. Et la vigilance du disciple se traduit par une activité prompte, résolue et confiante. Dans la parabole, cette activité est une activité de commerce. Pour ce qui est de la traduction de la parabole dans la vie réelle, les talents et le profit réalisé sont interprétés de diverses manières. Dans la majorité des cas, ni les spécialistes, ni l'histoire n'ont compris la multiplication des talents comme une image renvoyant à un enrichissement dans la vraie vie. Le fait même que le mot « talent » soit passé dans le langage courant comme désignant un don, c'est-à-dire une capacité remarquable propre à une personne, montre que l'interprétation monétaire est secondaire. Pourtant, une des interprétations possibles de la parabole consiste bel et bien à voir dans les talents de l'argent. Dans ce cas-là, ce qui est déterminant pour nous, c'est l'identité du propriétaire et la destination de cet argent. Les talents dont il est question sont ceux de Dieu, utilisés au service du Christ. Il n'est en aucun cas question de notre argent, à nous, qui augmenterait notre capital privé. On peut imaginer plusieurs incarnations concrètes de ça dans la vie. On peut penser à la saine croissance d'une fortune personnelle qui est réinvestie dans un projet chrétien. Ou encore au rendement juste d'actifs financiers d'une église dépensés dans des projets sociaux d'église. Au fond, chaque croissance est à chaque fois comme annulée par une dépense, c'est-à-dire une décroissance, au service de Dieu. C'est pourquoi j'estime que ce passage n'introduit pas une rupture au sein du Nouveau Testament, rupture avec laquelle il nous faudrait composer. Le Christ rejette, de manière claire et nette, le but d'accumulation des biens pour soi, en soi. On constate donc une discordance avec l'imaginaire croissanciste de notre société, qui valorise l'enrichissement infini, en fait l'alpha et l'oméga de l'existence personnelle et le but premier partagé au sein de la société. L'imagerie chrétienne reconnaît l'importance des biens et de la savouration, mais elle pose une limite à l'enrichissement qui ne saurait être une fin. Plus même, la foi subvertit l'enrichissement. Elle le délocalise, elle le renature et elle nous invite, chacune et chacun, à mettre non pas « mammon », qui est un nom qu'on utilise pour désigner l'argent dans le Nouveau Testament, mais Dieu et le prochain au cœur battant de nos vies.
Merci beaucoup Martin Kopp d'avoir partagé avec nous vos réflexions et votre méditation sur le texte biblique. Une petite question pour finir concrètement, par quel bout prendre les choses si on veut avoir une approche différente de la croissance et de la consommation de biens aujourd'hui.
Sur la question de la croissance, les textes bibliques nous invitent à nous poser 5 interrogations. Croissance, oui, mais de quoi ? Pourquoi ? Dans quel but ? Pour qui ? Qui est-ce qui en bénéficie ? Comment ? Quelle en est la manière ? Et jusqu'où ? Quelle en est la limite ? Et le texte qu'on a vu aujourd'hui en particulier, même si on a aussi parlé de la parabole des talents, nous invite à comprendre que au-delà du bien avoir, c'est-à-dire de ce qui est nécessaire pour vivre en dignité, tout ce que nous pourrions gagner et qui pourrait faire croître notre patrimoine pour lui-même, eh bien tout cela doit être mis au service. Il y a plein de manières différentes de le faire. Je suis sûr que parmi les auditeurs, il y en a beaucoup qui font des dons, qui soutiennent des associations. C'est une des manières de faire décroître constamment, on peut dire décréter notre patrimoine. Et en contexte de crise écologique, peut-être qu'une piste originale serait de soutenir des projets de ce type-là. Là où plus traditionnellement, on a soutenu la lutte contre la pauvreté ou par exemple l'accueil des réfugiés, qui sont des thèmes vraiment importants, dont on comprend aujourd'hui qu'ils sont liés à la cause écologique.
On va rester donc sur cet appel aux dons, à des projets qui ont du sens, à des associations. Et je vous invite à nous conduire pour finir dans un temps de prière.
Seigneur, nous vivons au cœur d'une société qui valorise l'avoir et le paraître avant tout. Avoir, plus. Paraître, aisé. Nous sommes marqués par cela. Nous nous présentons devant toi, tels que nous sommes. Tu sais ce dont nous avons besoin. Que ton esprit, ton souffle, nous inspire vers des modes de vie faits de simplicité et de savouration. Qu'il nous accompagne vers des actions qui accumulent des trésors auprès de toi, plutôt qu'auprès des hommes. En toi, nous plaçons notre confiance. Amen.
Merci beaucoup Martin Kopp, théologien protestant spécialisé en écologie et président de la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Cédric Châtelus pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantpluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wakinin. Bonne journée à vous sur France Culture.